Ô Seigneur Jésus, je te prie de venir au secours de notre intelligence pour que nous puissions bien comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui par ce message. Merci mon Dieu de me donner d'être agile avec ma langue pour bien exprimer ce que tu as mis sur mon cœur et de rendre chaque cœur attentif afin de bien comprendre ce que tu as à lui dire. Dans le nom de Jésus-Christ mon Dieu. Amen. Amen. Bonjour. Je voudrais que nous fassions une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 1 et au verset 3, s'il vous plaît. Je vous fais la lecture. 2 Corinthiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. Ce que Jésus veut que nous comprenions, alors que nous sommes en train de vivre une époque de l'histoire qui est très difficile, je vous rappelle que nous sommes sous le quatrième sceau d'Apocalypse 6, c'est-à-dire c'est une période très difficile, eh bien, c'est que nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre les épreuves que Dieu nous envoie. Bon, c'est vrai que ça ne nous plaît pas, mais nous devons apprendre à ne pas les craindre. J'ai bien dit apprendre. Plus on avance dans cette connaissance, dans cet apprentissage de cette vérité, plus nous pouvons avoir part aux souffrances de Jésus-Christ d'une façon digne, c'est-à-dire en le glorifiant. Croyez, mes frères et sœurs, croyez dans la grâce de Dieu. Croyez dans la grâce de Dieu. Vous avez une connaissance, quand vous croyez dans la grâce de Dieu, vous avez une connaissance qui vous place sur les hauteurs. Vous avez la connaissance réelle que vous n'êtes pas seul. Vous avez une connaissance réelle que vous n'êtes pas seul dans vos actions, que vous n'êtes pas seul dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous vivez. Et vous avez aussi la connaissance que vous ne pouvez pas accomplir tout par vos propres forces. Et ça, ça n'a rien de négatif. Ça ne doit pas avoir un poids de... Ça ne doit pas mettre un poids d'angoisse sur votre cœur, le fait que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Au contraire, ça signifie que vous ne serez pas obligé de traverser par vous-même des épreuves insurmontables parce que la grâce de Dieu sera toujours là. Mes frères et sœurs, nous sommes seuls quand nous faisons notre propre volonté. Ça, c'est sûr. Mais nous ne sommes pas seuls quand nous faisons la volonté de Dieu. Dieu est avec nous quand on fait ce qu'il dit. C'est pas à tout le monde que Jésus dit « Ne crains pas mon petit troupeau ». C'est à ceux qui sont dans son troupeau et qui marchent docilement à la suite du Maître, à la suite de Jésus. Chacun portant sa propre croix. Je dis bien sa propre croix. N'essayez pas de faire porter notre croix à quelqu'un par quelqu'un d'autre. C'est à travers des souffrances que la grâce de Dieu se manifeste pour nous. Sa consolation est pour ceux qui souffrent en faisant sa volonté. Pas besoin de consolation mondaine. En fait, les consolations mondaines ne consolent que les mondains. Paul, il avait souffert étant au service de Dieu, et par la grâce de Dieu, il avait reçu sa consolation. Et il dit donc que maintenant, il est à même de pouvoir consoler ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Il y a des nuances formidables là-dedans. Je note par exemple que, ayant été consolé par Dieu, maintenant Paul a le pouvoir de consoler au nom de Dieu. Vous voyez ça, mes frères et sœurs ? Dieu console Paul personnellement, il se charge de l'histoire, il le console. Et puis ensuite, Paul, lui, il va consoler les autres. Ça veut dire que il peut vous arriver que Dieu vous console directement, mais il peut aussi arriver que Dieu se serve de quelqu'un pour vous consoler. Parfois, il console au travers d'un homme, d'une femme, d'un enfant, de quelque chose, de ceux qui ont fait l'expérience de la consolation divine. Paul, il dit, et maintenant que par la grâce de Dieu, je vous ai consolé de la part de Dieu, eh bien, vous êtes devenus capables de consoler les autres de la part du Seigneur en son nom. Mais vous êtes incapables de consoler les autres tant que vous n'avez pas été consolé vous-même et vous ne pouvez pas être consolé si vous n'avez pas eu des souffrances.
Vous voyez? Alors se pose la question. Bon. Comment pouvons-nous aider les autres? Comment pouvons-nous consoler les autres? Comment pouvons-nous les encourager à travers les épreuves à faire confiance dans la grâce miraculeuse de Dieu si nous ne sommes pas prêts à accepter nos propres épreuves? Et si nous cherchons nous-mêmes des consolations futiles et passagères, autres que celles que Dieu donne par son esprit, par sa grâce? Bon, mes frères et sœurs, on avait déjà étudié il y a quelque temps dans ce chapitre, le verset 8, où il est dit que nous, Paul dit, nous avons été éprouvés au-delà de nos capacités d'endurance, d'endurer. Écoutez bien ça. Il faut cesser d'attribuer au diable toutes les choses mauvaises qui vous arrivent. Parce que, bon, c'est vrai qu'il arrive que l'ennemi nous attaque lâchement, que des démons nous attaquent. Mais nous devons comprendre aussi qu'il y a des choses que Dieu met devant nous pour qu'à travers de ces choses, il puisse nous façonner, nous équiper pour des choses à venir plus profondes. Alors, ne soyez pas des espèces de robots chasseurs de démons. Aussitôt que quelque chose arrive, au nom de Jésus, je chasse ceci, je chasse ça. Ça, c'est une tradition infantile. Bien sûr qu'on doit chasser les démons, mais il faut aussi comprendre qu'il y a l'œuvre de Dieu en vue de notre perfectionnement et que ça passe par la souffrance. Même des fois au-delà de nos forces. Paul le dit. Paul était vraiment un homme de Dieu merveilleux. Il avait cette humilité, il reconnaissait qu'il ne pouvait pas affronter tout seul certaines épreuves. Il savait que si Dieu n'intervenait pas, il était fichu, il allait mourir. Lisez bien ce chapitre. Et à la fin, il dit, mais Dieu m'a délivré et me délivrera encore. Ça, c'est un beau témoignage. C'est-à-dire, c'est un témoignage de quoi? C'est le témoignage de qu'est-ce que c'est la vie d'un chrétien. Comprenez? Après avoir lu tout ça, on se dit qu'on aurait bien tort d'avoir peur. Frères et sœurs, il ne faut pas être effrayé au sujet de ce que Dieu a prévu pour vous. Sa grâce, elle est infinie. Sa grâce pour toi, elle est infinie. Et si tu ne comprends pas ça, c'est ça le problème. C'est si tu ne comprends pas ce texte sacré qui est écrit par Paul, tu ne pourras pas comprendre pourquoi certaines choses t'arrivent dans ta vie. Pourquoi moi, ceci et cela? Et tu vas être découragé facilement parce que tu n'as pas compris. Par contre, si tu crois cette vérité, alors tu marcheras, tu progresseras dans la liberté, tu feras des progrès évidents. Quand je regarde mon petit-fils, il y a 3 ans, même pas 3 ans, mais je le vois parfait. Bon, il est parfait, mais bon, il n'a pas atteint la maturité. Voilà. Et vous, déjà, vous êtes parfait. Vous êtes né de nouveau, mais vous ne pouvez pas rester des bébés spirituels toute votre vie. Il faut atteindre la maturité. Et je remercie Dieu de m'avoir permis de croître dans ma vie de disciple. Il m'a touché. On chante ce chant merveilleux. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oui, il m'a touché. Des fois, ça m'a blessé. Il m'a blessé. Mais après, la pensée, la plaie, et tout ça, ça m'a changé. J'y suis pas arrivé par moi-même. Et vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous dire le secret. Tout cela, je l'ai voulu. La vie que j'ai, je l'ai voulu. J'avais cette volonté de servir Dieu. Par contre, je n'avais pas la capacité nécessaire pour le faire, pour le servir comme je voulais. Alors, j'ai franchi un pas, à un moment donné dans ma vie, j'ai franchi un pas qui m'a sorti de mon adolescence spirituelle. En gros, voilà, je suis né le 1er juin 1968, spirituellement, quand Raphaël a prêché. Je me suis converti là, en 68, et j'étais au service de Dieu dès le premier jour. Tout de suite, j'ai commencé à témoigner, et le premier soir, déjà, à peine, j'étais pas encore couché, je témoignais, et j'ai emmené ma mère et mon frère au Seigneur, et le lendemain, encore plein d'amis, et le premier miracle que j'ai vu dans ma vie, c'était 3 jours après ma conversion, un paralytique qui s'est mis à marcher au nom de Jésus, qui était guéri, et puis, après, j'ai fait mes études bibliques, et puis j'ai travaillé 7 ans avec Bill William, à Teen Challenge France, dans le cadre de l'évangélisation et en tant que responsable dans 3 cafés-bars. Mais ce n'est qu'en 1977, c'est-à-dire 9 ans après ma nouvelle naissance, que je suis sorti de mon adolescence spirituelle. J'ai obéi à Dieu en obéissant à Apocalypse 18:4. Je suis sorti des religions établies, car Dieu m'a dit d'en sortir, pas pour vivre n'importe quoi, mais pour vivre l'Église telle qu'elle était au commencement dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire une vie communautaire. Et c'est ce que nous vivons depuis 77. Alors je suis resté ami avec beaucoup de pasteurs, avec Raphaël Duval, le Gitan, avec T.L. Osborne, avec Bill William, avec... Je ne vais pas dire tous les noms, mais j'entretiens de bonnes relations fraternelles avec des pasteurs qui sont spirituels et intelligents. Mais ce pas hors des églises institutionnalisées par l'homme m'a coûté cher. J'ai été blessé. Et je suis encore par quelques faux frères et faux sœurs aussi. Mais j'ai mûri grâce à ça. Ça m'a fait mûrir. Ils m'ont fait mûrir. Tous ces gens qui m'ont sali, qui m'ont traité de tous les noms. Encore hier, des histoires. C'est incroyable. Incroyable. Mais tout ça, ça m'a fait bénéficier de la puissante grâce de Dieu dans ma vie. Quand je regarde en arrière, je m'aperçois que Dieu m'a créé et qu'ensuite il m'a formé, selon ce qu'il avait dit au sujet de Jacob dans Ésaïe 43, 1. Il a créé Jacob et ensuite il a formé Jacob. Le résultat de cette formation, c'est que je suis devenu un homme nouveau. Jacob aussi, il est devenu Israël. Et mes frères et sœurs, vous devez accepter ce processus. Une fois que vous avez accepté ce processus, votre chair, elle va être réduite à néant. À la croix, à l'autel, sur l'autel. Et Dieu va se charger de votre nouvelle vie. Alors, votre chair, elle déteste ce processus. Ma chair aussi, hein. Toute chair, c'est pas possible, on n'aime pas ça. La chair n'aime pas ça. Mais c'est le chemin obligatoire pour la chair. C'est comme ça. Se charger de sa croix et suivre Jésus le modèle, vivre comme Jésus le modèle. Vous n'êtes pas un bon chrétien simplement parce que vous lisez la Bible, que vous priez, que vous parlez en langue, que vous témoignez, que vous prêchez, que vous avez été baptisé de cette manière ou d'une autre, que vous conduisez des gens à Jésus, que vous faites des miracles en son nom. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est jusqu'à quel point le caractère, c'est-à-dire la personnalité de Jésus est vivante en vous, à travers vous. C'est ça que Jésus regarde, c'est ça que Jésus veut, c'est le caractère. Formez en vous le caractère de Jésus. Alors, se développer spirituellement, ça n'est pas l'affaire du hasard. Votre croissance spirituelle, ça va être le résultat du désir de recherche des choses d'en haut. La croissance, elle résultera de votre désir de recherche des choses d'en haut et de faire de cette recherche votre priorité. Il y a trop de vieux gamins dans les églises. Trop de vieux gamins mal élevés, capricieux, qui refusent de grandir. Mon Dieu. Le travail du Seigneur, en ce moment, c'est un travail de briseur. Il brise. Bon, c'est pas particulièrement réjouissant. On entend toutes sortes d'histoires de pauvres. Mon Dieu. Mais s'il ne brise pas ces sales vieux gamins qui se comportent comme des morveux là, il n'y aura pas de vie spirituelle authentique. Tant qu'il ne les brisera pas, pas de vie chrétienne selon les règles. Mes frères et sœurs, votre croissance est douloureuse. Sachez que c'est Dieu qui est en train d'intervenir en vous. Vous savez, un jour, c'était à Abidjan, on m'a amené une jeune fille et j'ai prié pour elle. C'était une grande salle, il y avait beaucoup de monde, des pasteurs d'un peu partout. J'ai prié pour elle et elle s'est mise à genoux en pleurant. Et j'ai compris après, elle m'a expliqué, elle avait souffert toute sa vie à cause d'une jambe. Et quand j'ai prié, la douleur est partie. Gloire à Dieu, c'était formidable. Mais elle est retournée à sa place et elle boitait encore terriblement. Et je continue à prier pour des personnes. Et il y a eu des guérisons formidables. Des aveugles ont retrouvé la vue, des choses magnifiques. Et tout d'un coup, on entend une fille qui hurle. C'était elle. Elle hurlait au fond de l'église. Elle souffrait le martyre. Et des personnes sont allées la chercher pour la ramener devant, pour que je prie encore pour elle. La douleur était pire qu'avant. On se demandait ce qui se passait et elle a relevé un peu sa jupe et on a compris. La jambe qui la faisait souffrir était toute malingre, toute menue. Elle avait à peu près un peu plus de 10 cm de plus court que l'autre. Et devant nos yeux et devant les caméras, parce qu'on a le film de ça, sa jambe s'est mise à se rallonger de un peu plus de 10 cm. Ça a pris 20 minutes. Les os, les muscles, les chairs, les nerfs, tout ça, c'est des veines. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'il peut y avoir dans une jambe. En 20 minutes, ça s'est rallongé. Mais dans des souffrances, cette fille hurlait, se débattait. Ils étaient obligés de la tenir. Mais au bout de 20 minutes, la jambe était exactement la même que l'autre. Elle pouvait marcher sans boiter et elle s'est mise à danser pour la gloire de Dieu. Est-ce que votre croissance est douloureuse? La croissance, ça peut être douloureux. Sachez que c'est Dieu qui est en train d'intervenir en vous. Ayez un esprit soumis. Décidez d'être soumis. Acceptez ce qui est en train de vous arriver. Ça fait mal, mais c'est un mal nécessaire. C'est pour le perfectionnement de ceux qui se sont mis à part pour servir notre Dieu d'amour, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et c'est nécessaire. Trop de sales gamins, de vieux sales gamins morveux dans les églises. Mon petit-fils, qui n'a pas encore 3 ans, quand nous sortons de table, nous nous mettons dans le salon et il va sur les genoux de son papa ou des fois sur mes genoux et il dit « Oui, 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 oui !» Et il veut qu'on prenne notre iPhone et qu'on lui passe ces petits films d'animation de « Oui, oui !» Je ne sais pas si vous connaissez « Oui, oui !» avec son petit chapeau, là, tout ça, et sa petite auto jaune. Tous les chrétiens aiment les fables. Un peu comme mon petit-fils avec « Oui, oui !» là. Les fables. Ah, alors là, vous allez sur YouTube, vous allez voir les fables. Les pluies de diamants qui tombent dans les églises. Les poussières d'or qui tombent sur la Bible de celui qui prêche, ou dans les cheveux de ceux qui reçoivent l'imposition des mains. Ou alors, des plumes d'anges qui tombent dans l'église, comme ça. C'est des histoires de oui-oui. Mais il faut qu'un prophète vous le dise. C'est des histoires de oui-oui, de gamins de même pas 3 ans. Revenez à l'évangile de Jésus-Christ. Acceptez de grandir. Portez votre croix. Suivez Jésus. Souffrez pour lui. Rachetez le temps. Devenez des consolateurs. Quand vous aurez été consolés par le Saint-Esprit, vous pourrez consoler ces gens qui souffrent réellement. Quand je vois ces gens-là qui soi-disant ont de l'or qui tombe sur leurs chaussures ou je sais quoi, quand ils sont en train de prêcher, ils prêchent à des gens pauvres, à des gens qui mangent peut-être même pas tous les jours. Et puis voilà, et Dieu s'amuserait à faire tomber de l'or et des diamants dans ces églises. Non, mais c'est des histoires de oui-oui. Mon Jésus n'est pas comme ça. J'aime mon Jésus de ma Bible. Et dans l'Évangile, il est question de prendre aussi sur soi les souffrances de Christ, de savoir quoi en faire, comment agir dans la souffrance quand on souffre selon la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, ma prière pour vous, c'est que vous soyez cette sorte de personne qui accepte de mûrir pour grandir à la gloire du Seigneur Jésus et racheter le temps. Amen. Sois béni, mon Dieu, pour cette prédication et aide-moi à toujours dire la vérité, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Merci, Seigneur, parce que la profondeur attire la profondeur. Je sais qu'il y a des gens profonds qui viennent écouter mes messages et je te demande, mon Dieu, de les conforter dans la pensée biblique claire. Nous avons à prendre part aussi à tes souffrances, si nous voulons prendre part aussi à la gloire. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Au revoir, mes frères et sœurs. J'ai une bonne nouvelle pour vous dimanche. C'est le frère Arthur Alamand qui va prêcher à la chapelle du Château Sanctuary. Vous savez, le frère Arthur Alamand, c'est l'homme de Dieu qui organise toutes les réunions de Pierre Gilbert. Vous savez, Pierre Gilbert, l'eschatologue, celui qui prêche toujours au sujet du retour de Jésus-Christ. Eh bien, c'est cet homme de Dieu qui va prêcher dimanche à la chapelle, et je vous invite à venir écouter sur Révélation Bible. Le message sera mis en ligne, je pense, vers les midi et demi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.